Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International en ce premier jour du printemps. Et incroyable, mais ça se voit même à Paris. Il y a du soleil, les petits oiseaux chantent, il y a des fleurs dans les arbres et c'est bien agréable. Surtout le retour de la lumière après des mois un peu gris toujours. Cette période hivernale dans le nord de la France. Nous parlerons donc football et non pas météo aujourd'hui avec la Nationale et en pleine préparation de l'Euro. Les champions européens sortants, privés de Coupe du Monde, veulent repartir de l'avant avec leurs matchs amicaux disputés en territoire américain. Une ombre au tableau, le défenseur de l'équipe nationale Francesco Acerbi est resté au pays accusé d'insultes racistes envers un joueur brésilien. Une enquête est ouverte, Matteo Cioffi nous en dira beaucoup plus. Les Fenech en piste dans un mini tournoi en Algérie avec leur nouveau sélectionneur, le Suisse Petkovic, a dressé une liste sur une page blanche qui fait grincer quelques dents chez les cadres écartés. Quels objectifs a-t-on fixé à Vladimir Petkovic ? Nabil Djellit, vous savez tout déjà, je suis sûr. Bonjour.
Bonjour Annie, tout. Je n'aurais pas cette prétention-là et je n'ai surtout pas la prétention d'avoir le monopole de la vérité.
Un peu.
J'espère avoir celle un peu du cœur.
Bon, et d'un cœur vert, alors, on le connaît. Dani Alves en liberté sous caution. L'ancien latéral des Blaugrana a été condamné pour viol en Espagne, gâchant une incroyable carrière, un incroyable palmarès glané au Barça, le Juventus et au PSG. Triste fin de carrière pour le quadragénaire brésilien qui prétendait jouer jusqu'à ses 50 ans. Et cela, nous en parlerons aussi avec l'aide de Chérif Guémour. Bonjour Chérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Beaucoup de choses donc dans cette émission, alors que ce sont les journées internationales où les sélections s'entraînent et où il y a quelques matchs de temps à autre. David Findel m'a aidé à préparer cette émission. Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
C'est parti et c'est arrêté par Donnarumma. L'Italie est championne d'Europe en battant l'Angleterre au tir au but.
La joie des Macédoniens ce jeudi sera Skopje. Leur équipe de football a réalisé un exploit en éliminant l'Italie en demi-finale des barrages pour la Coupe du Monde.
L'Italie est en enfer, hors de ce monde. Une reconstruction semble inévitable.
Et cette fois-ci, pas de mauvaise surprise, les champions d'Europe seront bien en Allemagne pour y défendre leur titre l'été prochain.
La Nationale est donc là, bien présente pour remettre en jeu son titre de championne d'Europe. Ces derniers temps, les champions en titre ne passent pas la phase de poule, mais ils sont quand même là pour défendre leur titre. Et heureusement, la Nationale y sera. Cette coupe remportée à Wembley face à l'Angleterre, qui croyait enfin à sa chance. Les hommes de Roberto Mancini avaient ravi le titre à la Free Lions, on s'en souvient. Et c'était Antoine Grenier qui saluait la performance italienne alors. Ils défendront donc ce titre. Mais le regroupement a commencé par un moment un peu délicat pour les Italiens. L'exclusion d'un joueur convoqué, le défenseur champion d'Europe aussi, Francesco Acerbi, soupçonné de propos racistes. Bonjour Matteo Cioffi.
Bonjour, bonjour Annie et bonjour tout le monde.
Matteo, l'histoire a pris de l'ampleur, bien sûr, et sans doute aussi parce que ces faits se sont déroulés lors de la 29e journée de Serie A, et c'était un jour qu'avait choisi la Ligue italienne pour lutter contre le racisme.
Oui, tout à fait. On en était à la 60e minute de ce défi Inter-Naples qui était plutôt passionnant. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le joueur, le défenseur du Napoli, Juan Jesus, s'est approché de l'arbitre pour lui dire que Francesco Acerbi l'avait appelé négro. Le défenseur interiste s'est tout de suite excusé. Le Brésilien a jeté ensuite à la fin du match. De l'eau sur le feu, mais le jour après, l'affaire s'est aggravée, car le même Acerbi a nié d'avoir insulté de façon raciste son adversaire sur le terrain. Cependant, le Nerazzurro a été éloigné des convoqués de la Nazionale de Luciano Spalletti. Une enquête a été ouverte et les deux joueurs sont écoutés vendredi par le parquet fédéral qui est responsable de cette enquête. Et honnêtement, Acerbi risque vraiment gros, car on parle de 10 journées de suspension comme prévu par le règlement par le code de justice sportive italienne.
Mmh. Matteo, lui, il allègue avoir dit non pas negro mais nero, et dans une expression purement italienne qui pourrait prêter à confusion.
Oui, oui, il aurait dit, selon une source interiste, il aurait dit « ti faccio nero », ça veut dire « je te fais noir », qui n'a rien à voir avec le racisme. C'est une expression qui n'est pas sympa, c'est pas sympa du tout, mais
terrain,
ça veut dire
rare,
plus ou moins « je te pète la gueule, je te casse la gueule », en quelque sorte. Mm-hmm. Mais bon, c'est pas du racisme, ça c'est seulement de la violence et de l'ignorance.
Malheureusement, Nabil, le problème, c'est que Acerbi, il se retrouve dans une histoire où il peut peut-être prendre cher parce que l'Italie semble avoir décidé de lutter contre un fléau dont on est triste de parler d'une façon régulière dans Radio Foot.
Il y a deux choses. La première, qui est la plus importante et sur laquelle, à mon avis, il faut insister, c'est que l'Italie ait décidé enfin de passer à la vitesse supérieure. Mmh.
Avec, en faisant une journée spéciale dans son championnat.
Donc ça, à mon avis, c'est vraiment l'élément le plus important à retenir. Bon, c'est tombé sur Acerbi. Moi, je ne vais pas juger Acerbi. Hein. Je ne suis pas d'enquête, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas tribunal médiatique. On va attendre que ça aille jusqu'au bout et puis on verra ce qui sera dit. Et puis à partir de ce moment-là, on pourra se positionner. Bon, lui parlerait d'une autre expression utilisée. Bon, il connaît un peu le climat, il a quand même vu ce qui s'était passé ces dernières années. Bon, peut-être qu'il a manqué un petit peu de discernement, s'il a vraiment dit ça, enfin j'en sais rien. Donc oui, le principal, c'est quand même de manière systémique, en tout cas, de prendre des sanctions, et des sanctions fortes, et des sanctions qui marquent les esprits, et qui aussi soignent, entre guillemets, un peu l'image de l'Italie et du football italien. Alors, où il existe évidemment des faits de racisme, mais pour moi, c'est pas seulement l'Italie. L'Italie n'a pas le monopole, malheureusement, de ces comportements-là.
Absolument pas.
Ça existe aussi ailleurs. Et pour terminer, je rappelle quand même, parce que pour certains qui l'oublient, le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit.
Mmh. Shérif, malheureusement, Acerbi, il a 36 ans. Alors, on sait qu'en Italie, hein, notamment, les défenseurs, ils durent très longtemps à leur poste. Je crois que Chiellini et Bonucci nous l'ont montré et prouvé. Eux aussi sont champions d'Europe. Et là, finalement, Acerbi, il peut prendre cher et ça pourrait arrêter sa carrière. Parce que s'il n'est pas au prochain Euro, ça serait compliqué.
Oui, bien sûr, mais en fait, ce qui aggrave le cas, c'est qu'en fait, comme disait Juan Jesus, parce que c'est de lui qu'il s'agit, le joueur du Napoli, il a dit, dans un premier temps...
C'est réglé.
Acerbi s'est excusé, donc on en reste là. Et il a dit, c'est quand j'ai vu qu'en fait, il avait nié avoir dit ce qu'il a dit, mais donc il est revenu là, très très récemment, je pense que c'était aujourd'hui ou hier, Juan Jesus, en disant... Il a sorti une autre phrase, et malheureusement, c'est pas la phrase de Matteo. Je ne l'ai pas, parce que je ne parle pas italien. Donc, c'est bien, il va y avoir une confrontation. Et là, je ne dirais pas que c'est parole contre parole, parce que je pense que les juges vont avoir un certain discernement sur l'histoire, par rapport au comportement, mais surtout ce que va alléguer Juan Jesus. Et je veux dire, il y a des choses qu'on n'invente pas, de toute façon. Donc, et pour Acerbi, voyons voir comment il se défend. Et comment la justice italienne va trancher. Non, mais s'il n'y a pas d'enregistrement, on ne sait pas ce qui s'est dit.
S'il n'y a pas de témoin et si c'est parole contre parole, comment tu fais ?
Voilà.
Non, mais je pose la question parce que tu dis...
On le saura, mais comme vous le disiez, on ne peut pas savoir.
C'est toujours la limite de l'exercice.
Oui, bien sûr. Mais c'est... dans cette histoire...
Acerbi peut dire il n'y a pas de vérité non plus, machin.
Non, mais...
Enfin, malheureusement, quoi. C'est compliqué, en fait.
Les juges auront du discernement. Juan Jesus est bien décidé à ce que ça aille jusqu'au bout, justement. Donc, ouais. Je pense pas qu'il y aura de compromis avec Juan Rezou, c'est ça que je voulais dire.
Oui, d'accord.
En tout cas, c'était l'ombre au table. Oui, Mathéo.
Oui, je voulais seulement ajouter une chose qui est, à mon avis, assez importante. Les joueurs Barella et Lobotka, et même Di Marco, seront à leur tour écoutés par les
joueurs. Ça, c'est intéressant.
Parce qu'ils étaient là près de, ils étaient là sur le terrain, donc près des joueurs, et ils sont donc des témoins de toute cette histoire.
Bon, on en saura plus comme ça, au moins.
Bon, bah, ça sera à suivre, mais c'est vrai que ça a jeté un peu une ombre, un peu triste sur cette nationale et qui a bien des choses à reconquérir.
Il y a
et
une justement. Époque,
Oui, allez-y.
Non, il y a une époque, ça serait peut-être passé inaperçu, puis voilà.
Bah oui, bah ça, on le sait, malheureusement. Et puis, c'est vrai qu'il y a des choses aussi à ne pas laisser passer. En tout cas, la Nazionale, elle a changé d'air et elle est partie over the sea. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Senta me chi tu fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi siente disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca baseball, mei sort beccamella. Alors les voilà aux États-Unis, ces Italiens, hein, ils ont suivi la trace de bien d'autres Italiens au début du siècle dernier. Alors pour alléger l'ambiance autour de cette nationale et qui revient donc de loin et qui participera à l'Euro 2024, le sélectionneur Luciano Spalletti, j'essaye de le dire comme vous Matteo, avait convoqué une nouvelle star du sport pour un peu alléger tous ces joueurs.
Oui, Yannick Sinner, là vous le prononcez mieux que moi peut-être.
Hein. Je sais pas.
Bon, Sinner est actuellement vraiment le symbole absolu du sport en Italie. Tout le pays en est fier. C'est un garçon souriant, poli et surtout proche à devenir le numéro un au monde du tennis. On peut dire que c'est l'enfant
que tous les... C'est un tennisman.
Ouais, c'est un tennisman futur, probablement futur numéro un au monde.
Et,
c'est un
peu vainqueur récemment de la Copa Coupe Davis, pardon.
De l'Open d'Australie.
Oui.
Et okay. C'est un peu l'enfant que toutes les mamans italiennes voudraient, et pas seulement les italiennes. Hein. Et donc il a été invité à Coverciano pour rencontrer la nationale et aussi pour essayer, pourquoi pas, de transmettre le bon moral à cette équipe qui a énormément besoin de retrouver la pêche et la confiance en soi-même en vue d'un euro où il faudra défendre, vous l'avez dit, le titre gagné il y a 3 ans. Ça semble un siècle, mais bon, seulement 3 ans. Sinner, c'est donc l'exemple à suivre, comme a déclaré Luciano Spalletti en serrant la main du champion de tennis qui est un grand tifoso et passionné de football. Il est tifoso de l'AC Milan. Hein. Je crois qu'on va l'entendre.
On va l'entendre, mais déjà on va entendre Gianluigi Buffon parce qu'il est dans la délégation hein, de cette nationale et il a eu quelques mots plutôt sympas à l'égard de Sinner.
C'est bien que tu sois là. Je te suis toujours et mes fils aussi. Tu as fait en sorte que le tennis soit actuellement aimé de tous, un peu comme dans le passé avait réussi le bateau Luna Rossa, grâce à qui tous les Italiens s'étaient soudain découverts des grands experts de voile, de vent ou de bouée, sans rien savoir du tout. Aujourd'hui, on se réveille la nuit pour assister à tes matchs et c'est super.
Alors, Sinner, c'est un tennisman, mais c'est aussi quelqu'un qui aime le football. Il va à San Siro parce qu'il est du côté des Rossoneri. Il est du côté du Milan AC et les tifosi lui ont fait une chanson. Chérif, on peut faire des parallèles, hein, parce que je crois qu'en France ou au Cameroun, quand Yannick Noah encourage le Cameroun durant une CAN, c'est aussi l'appel aux gagnants, aux vainqueurs pour aider d'autres sports.
Non, mais c'est bien de faire ces parallèles avec les autres sports. Là, aux Pays-Bas, actuellement, Verstappen, c'est pareil.
Formule 1, pilote de Formule 1.
Ouais, voilà, il a attiré à lui ce qu'on appelait l'armée orange, hein, c'est-à-dire la masse de supporters de l'équipe nationale des Pays-Bas. Et lui aussi, c'est un fan de foot, Verstappen. Alors lui, il est très PSV. Et à l'échelle, comment dire, mais c'est comme chez nous avec Teddy Riner, on a besoin de locomotives. Le sport, c'est pas un environnement cloisonné, donc il y a des passerelles entre les différents sports. Et si Nord peut apporter son fluide, ouais, entre guillemets, à l'équipe,
Pourquoi s'en priver, voilà.
Surtout pour une équipe qui enchaîne les revers.
Bien. Bon. À demain.
Mathéo aura saisi, j'espère. Le trait du loup. Alors Mathéo, parlons de cette squadra azzurra. Elle va disputer donc deux matchs amicaux contre des en Amérique du Nord. Elle est en Floride. Elle va rencontrer deux équipes sud-américaines, à savoir les Tintos du Venezuela. Ça sera demain soir. Et puis Ecuador, l'équipe d'Équateur. Cette sélection italienne, ce groupe formé par Luciano Spalletti, dites-nous quel est son profil. Est-ce qu'il a vraiment rénové? Est-ce qu'il a rajeuni? Est-ce qu'il a viré des gens? Il est là depuis le mois d'août, il n'y a pas eu tant de fenêtres internationales depuis.
Il continue à faire des tests. C'est vrai que le but est sûrement celui de rajeunir l'équipe. Et on l'a vu avec ces dernières convocations où je commencerai à souligner quelques exclusions qui ont fait du bruit. Celle de Ciro Immobile, qui traverse une saison plutôt compliquée avec la Lazio, où il n'est presque plus titulaire et qui, cette année, dans le championnat, a marqué seulement 6 buts. Rien pour un joueur de son niveau. Et puis celle de Gianluca, de l'autre avant-centre, Gianluca Scamacca, qui est l'attaquant de l'Atalanta, pour lequel Spalletti a fait comprendre que son choix est temporaire, car il mise encore beaucoup sur cet attaquant qui revient d'une blessure. Donc c'était un peu attendu. Il faut au contraire souligner les nouveautés. Il y en a trois qui font leur début avec le maillot de la squadra azzurra. Tout d'abord, Michael, et là j'ai du mal à prononcer, Foloruncio qui est d'origine, et j'avais, ça tombe mal parce que j'avais compris comment on prononçait Varaskeglia, et maintenant il y a celui-là, Foloruncio, ouais. Ok.
Pas facile. Hein.
Et j'ai mis un an pour le prononcer de façon correcte, Varaskeglia. Bon, retournons à Foloruncio. Origine nigérienne, il est né à Rome il y a 26 ans, il joue à Vérone, où il reste de propriété du Napoli, hein. C'est un milieu de terrain offensif, et joue de façon très physique. Il a déjà marqué 4 buts avec l'Hellas Vérone, qui est pas mal. Deuxième nouvelle entrée, Lorenzo Luca, 23 ans, avant-centre très haut de 101 cm pour 80 kg. Il vient de disputer deux saisons à l'Ajax. Cette année, il a débarqué à l'Udinese. 7 réalisations, 28 rencontres. Spalletti, à son égard, a déclaré, je veux voir de quoi il est capable, parce qu'on m'a dit des très belles choses. Ah. Oui, troisième nouveauté, Raoul Bellanova, 23 ans, lui aussi, défenseur du Torino, c'est un joueur très technique, capable de pousser sur le flanc droit. On verra qu'est-ce qu'ils seront capables de faire avec ceux de matchs redoutables qui attendent les Italiens au-delà de l'océan.
Mmh. Mathéo, l'Italien argentin, est-ce qu'il a encore été convoqué, celui qui avait... Non, hein.
Oui, Matteo Retegui, il est bel et bien présent, voilà. Il est en train de faire une très bonne saison au Genoa, donc il mérite sa place, peut-être aussi dans le 11 titulaire. Vous savez, on a terriblement besoin d'avant-centre.
Oui, exactement. Et surtout, terriblement besoin de buteurs, je crois. C'est le problème de l'Italie. On l'a vu ces derniers temps, Chérif.
Exactement. À peu près, c'est du très bon dans toutes les lignes. Gardien de but, défenseur, milieu, c'est impressionnant. Les joueurs de côté, c'est bon aussi. C'est le numéro 9. Donc, bizarrement, il a fait un choix, c'est d'écarter Ciro Immobile. Mais c'est vrai qu'il ne fait pas une super saison. J'ai pensé que Scamacca sera appelé, mais finalement, il n'a pas été non plus. Donc voilà, on va peut-être compter, je pense, sur Raspadori. En général, ces derniers temps, je crois que c'est surtout lui qui était appelé. Mais voilà, c'est un problème d'efficacité devant. Mais tout le reste, c'est très bon. Il y a la dynamique des clubs italiens dans les Coupes d'Europe. Et en plus, il y a psychologiquement le fait qu'il se soit qualifié à un grand tournoi par rapport à l'élimination de la Coupe du Monde. Ça a été un poids gigantesques qui se sont dont ils se sont débarrassés. Il faudra compter sur l'Italie, et puis, puis voilà. Quoi. Mais c'est vraiment l'efficacité devant, c'est ce qui les avait aussi plombés pour les qualifications des deux dernières Coupes du Monde.
Exactement, c'est ça qui leur manque en fait. Et on avait vu, même pendant l'Euro, on ne peut pas dire qu'ils avaient inscrit des scores impressionnants.
Mais il y avait des occasions.
Ouais, les occasions, mais le problème c'est que c'était ça déjà. Alors pendant l'Euro, ils avaient réussi, mais ils gagnent quand même ce titre.
Quelle équipe avec un tel effectif aurait pu réussir à gagner l'Euro. Enfin, mais l'Italie l'a fait quand même. Mm-hmm. Je veux dire, on ne peut pas sous-estimer... Autre équipe... Enfin, l'Euro, c'est compliqué à gagner. Ouais. Et même avec
le problème,
un effectif de Palme des Champions,
ces champions ne sont pas allés à la Coupe du Monde.
Mais ça veut dire que c'était l'histoire d'un tournoi. Mm-hmm. Et bien mené, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais une équipe qui est toujours cohérente, bien organisée, qui trouve des ressources, et puis il y a quand même une identification, il y a le poids de l'histoire en fait. Quand tu portes le maillot de l'Italie, tu es un joueur de la nationale et tu as une histoire à honorer.
C'est intéressant pour nous, enfin je veux dire, une Coupe du Monde sans l'Italie, on est content de voir les Italiens participer à l'Euro aussi.
Attendez, on parle du deuxième pays le plus titré en Coupe du Monde derrière le Brésil, donc parle d'une nation absolument extraordinaire dans l'histoire du football. Parce qu'elle a apporté, non pas que par ses talents du diable, mais aussi par son organisation, par sa manière de jouer au football, par l'imaginaire qu'elle a suscité. Il y a des expressions aujourd'hui, elles sont tirées du football italien. Dans le lexique du football, t'as gagné à l'italienne, t'as le catenaccio, enfin j'en passe. Mm-hmm. Et voilà, évidemment que l'Italie est indispensable au football européen et au football mondial. Bon, mais globalement, leur équipe, l'effectif là, il ressemble presque à celui qui a gagné l'Euro la dernière fois. Non, mais je veux dire, à quelques variantes près.
Non, mais entre-temps.
Sauf devant, effectivement, c'est la
guerre. Sauf qu'entre-temps, il y a une montée en puissance des clubs italiens, ce qui n'était pas le cas avant l'Euro. Mm-hmm. Là, il y a vraiment des équipes.
Même s'ils ne sont plus en quart de finale de Ligue des Champions.
Mais Spinazzola, au dernier Euro, tu l'attendais, toi ? C'était une mobilette.
Non. Puis le truc, c'est qu'il n'y a pas que Spinazzola. Il y a encore Darmian, il y a encore Di Marco. Et non, ils ont encore enrichi par rapport à 2021. Je pense qu'au niveau des individualités, il y en a plus. Elles sont de meilleure qualité, il y a plus d'expérience. Le petit point noir, donc c'est le problème de l'avant-centre. Et c'est même en qualification, ça a été contre l'Angleterre.
Ils se sont fait peur un peu. Hein.
Voilà, c'est ça, ils se sont encore fait peur.
Mais ils partent, vous avez raison, ils commençaient à nourrir un petit complexe en qualification. Mm-hmm.
Et ils avaient avec plus une de certaine Macédoine
du Nord. Ils avaient plus de marge. Mais moi, je vous le dis dans le plus grand calme, je ne sais pas s'ils vont gagner l'Euro. En revanche, bon courage pour les sortir. Parce que ça va être une équipe extrêmement difficile.
Alors, ils sont dans un groupe.
Mathéo, t'as remonté le moral.
C'est une belle équipe.
Ouais, vous n'avez pas parlé de Federico Chiesa qui fait son retour en
national,
lui
et les autres.
Après la longue blessure qui, vous savez...
C'est Chiesa, pas un avant-centre, c'est pas un numéro 9. C'est un attaquant de complément.
Oui, pour rester sur Sinner, Luciano Spalletti a dit que Federico Chiesa est le Sinner du football italien. Donc,
tout le monde adore Chiesa, il est en train de revenir en pleine forme, on est super content. Mais c'est un attaquant de soutien.
L'Italie sera dans le groupe avec l'Espagne, la Croatie et l'Albanie.
C'est un groupe pas facile. En plus, il y a quand même une dimension un peu derby avec le foot albanais, puisque il y a des passerelles
et
entre les deux
Croatie.
Pays. La Croatie, ils se connaissent parfaitement. Et puis l'Espagne qui est capable de vous anesthésier. Quoi.
Mathéo, cette équipe, depuis le dernier Euro, elle est passée un peu par tous les états.
Oui, et c'est pour ça qu'avant j'avais dit il semble passer un siècle. c'est seulement 3 ans parce qu'ils se sont passés vraiment des choses, je dirais même incroyables. L'élimination avec la Macédoine du Nord qui a vraiment jeté le pays dans la déprime plus totale pour ce qui concerne le calcio. C'est vraiment quelque chose de fou qui s'est passé avec cette nationale et qui fatigue à retrouver le moral, mais surtout le soutien de la part des Italiens, des tifos italiens qui ne pardonneront jamais à cette nationale d'avoir loupé 2 championnats du monde d'affilée. Donc il faut vraiment travailler sur le résultat il faut aller à l'Euro. C'est un groupe très difficile, vous venez de le dire. Il y a l'Espagne, il y a la Croatie qui font vraiment peur. Mm-hmm. Même si, à mon avis, la deuxième place va se jouer entre l'Italie et la Croatie. C'est là vraiment le grand défi de ce groupe.
Même l'Espagne, elle n'a pas
de garantie.
La Croatie, il faut évidemment s'en méfier parce que tout le monde dit qu'ils sont en fin de cycle, mais ils ne sont jamais en fin de cycle et ils se renouvellent. L'Italie, bon, bah, c'est cohérent et c'est sérieux et c'est l'étonnant du titre.
Il y a meilleurs troisièmes.
Mais l'Espagne, on n'est pas sur l'Espagne de 2008, 2010 et 2012. Hein.
Oui, mais moi, j'ai regardé les matchs de Barcelone et de Atlético Madrid face aux deux clubs italiens. Bah, il y avait pas mal de jeunes joueurs espagnols qui m'ont vraiment impressionné. C'est pour ça que je dis attention à l'Espagne, qui est une équipe jeune et plein de talent, à mon avis. Puis oui, j'espère que ça va marcher pour eux, mais ça, c'est une autre histoire.
Ça, c'est les petits jeunes, c'est pour la suite. Mais sinon, l'Italie peut très bien faire match nul contre l'Espagne et la Croatie et battre l'Albanie et ça passe.
Matteo, et Spalletti, parce que finalement il a repris cette équipe à un an de l'Euro. Alors il reste auréolé de son titre de champion d'Italie avec Naples qui courait après depuis une trentaine d'années.
Heureusement qu'il était libre quand on l'a appelé.
Luciano Spalletti est un peu en sauveur, mais est-ce que son travail est loué, apprécié?
Oui, pour l'instant, même si bon, il y a eu des résultats, disons pas vraiment foudroyants, mais l'équipe a aussi joué de bons matchs. On mise beaucoup sur Luciano Spalletti, mais on mise surtout aussi sur son caractère. Et à mon avis, le choix de renvoyer Francesco Acerbi au-delà de ce qu'Acerbi aurait dit ou n'aurait pas dit, c'est un choix, à mon avis, d'un entraîneur qui veut quand même être fidèle à ses principes. Il l'a toujours dit, si quelqu'un doit vêtir le dossard de la nationale et de la squadra azzurra, il doit le faire avec le respect à 100%. Je veux pas voir des joueurs qui font les guignols sur le terrain ou qui passent leur soirée à jouer à la PlayStation et tout ça. C'est quelqu'un qui a un fort caractère. Et je crois qu'on en a besoin. En ce moment, on a vraiment besoin vous voyez un peu le papa sévère qui remet à sa place des joueurs qui certainement ont du talent, parce que l'équipe italienne a du talent, ça il faut pas le nier.
On le nie pas.
D'où la quasi disparition d'un Verratti par exemple. C'est un choix fort et talentueux, mais c'est un choix fort. On est passé à autre chose.
Enfin, Verratti joue au Qatar.
Il était déjà plus ou moins écarté avant d'aller au Qatar.
Il n'a pas vraiment marqué, finalement, comme on pouvait l'espérer, l'histoire de...
Même
de
s'il est champion, lui aussi.
Non, l'Italie, Jorginho a fait mieux que lui, par exemple.
Jorginho qui a été rappelé, ouais.
Voilà pour ce qui est donc de cette équipe italienne et des perspectives en vue de l'Euro. Matteo, donc deux matchs face au Venezuela, face à l'Équateur. Bon, ça devrait être surtout des bons matchs de préparation par rapport à cette équipe d'Italie en terre américaine. Merci beaucoup Matteo d'avoir été avec nous dans Radio Foot International et à très vite.
Merci à vous et bonne soirée.
Merci Matteo. Ciao. On continue donc, on va parler d'une équipe qui, elle est en reconstruction ou qui tourne une page ou qui commence un nouveau chapitre.
Kadri.
Nope.
Mahrez.
Nope.
Slimani.
Nope.
Si on fait le ménage, on le fait vraiment bien ou on le fait pas?
Ça vous fait sourire, Nabil.
Ouais, c'est marrant, c'est
vous
quoi?
Vous avez deviné.
Non, je ne connais pas ce...
Ah, c'est inventé par Mathieu Degaët.
Il faudra m'expliquer.
Une nouvelle ère a débuté cette semaine pour les Fenech réunis pour la première fois dans le CTN, le Centre Technique National de Sidi Moussa, exactement, autour du sélectionneur nommé il y a à peine deux semaines. Le Suisse Vladimir Petkovic succède à Djamel Belmadi, son prédécesseur qui avait conduit, rappelons-le, soulignons-le, l'Algérie sur le toit de l'Afrique. C'était en 2019 en Égypte au Caire. C'était avant le grand
le grand toboggan
et cet enfermement confinement imposé par le Covid. Oui, et puis vous, le trou noir surtout. La première liste de Petkovic semblait amorcer un tournant radical avec des absents, on l'a entendu, donc Mahrez qui n'est pas là, Belaïli, Feghouli, Slimani. Mais on va l'entendre, Vladimir Petkovic, parce qu'ensuite il a quand même voulu atténuer ses choix.
Riyad m'a appelé, on a longuement parlé. En ce moment, il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Il manque d'énergie. C'est lui qui m'a demandé un temps pour réfléchir à son avenir ainsi que l'autorisation de ne pas venir à ce stage. Concernant Belaïli, Feghouli et Slimani, ils doivent faire face à une concurrence très importante. Il y a d'autres joueurs à leur poste qui méritent d'être là. Slimani est absent, je le connais, j'ai parlé avec lui. C'est un joueur de haut niveau. Il y a certains joueurs dont il fait partie pour lesquels il est important qu'ils se focalisent pour l'instant sur leur club. En tout cas, la porte de la sélection leur reste ouverte. On fera une évaluation jour après jour.
Est-ce qu'il a un peu atténué ses choix forts en tenant des cadres ou des anciens cadres à l'écart de l'équipe d'Algérie?
Alors, déjà, une remarque. Est-ce qu'Éric Mamrut est libre? Parce qu'au niveau de la traduction, c'est pas mal du tout. Il y a eu quelques difficultés du côté d'Alger pour traduire Vladimir Petkovic.
Il parle quoi, en italien?
Il parle en italien, donc il fallait le traduire en français, il fallait le traduire en arabe. En français, ça allait encore. Bon, le coup précédent, ça avait été très correct. Et là, ça a été un peu plus compliqué. C'est quelque chose qu'il va falloir corriger rapidement du côté de la Fédération algérienne de football.
Mais il va peut-être un peu apprendre le français aussi.
Il comprend,
oui,
globalement.
En revanche,
répondre, c'est un peu plus compliqué pour l'instant. Mm-hmm. Mais bon, je pense que c'est un de ses chantiers. Et d'ailleurs, c'est aussi une de ses clés. C'est peut-être une des clés de sa réussite ou pas. Parce que transmettre des émotions et transmettre des choses à un groupe, c'est important. Et on rappelle qu'en équipe d'Algérie, comme dans d'autres sélections africaines, c'est une mosaïque. Hein. Il y en a qui comprennent l'arabe, il y en a qui comprennent le français, il y en a qui comprennent le berbère. Mmh. Il y en a qui vont te faire plaisir, mon cher shérif, qui sont néerlandophones comme Zerouki, le milieu de terrain, même s'il parle anglais. Donc voilà. Et pour en revenir à votre question initiale, est-ce que c'est sa liste déjà? On va dire qu'on l'a aidé à faire cette première liste, ce qui est normal, puisqu'il débarque, il ne connaît pas les joueurs. En revanche, effectivement, il y a des choix forts qui sont impactants. Il y en a un à dissocier des autres. C'est Riyad Mahrez qui s'est mis en dehors. Hein, parce que Riyad Mahrez, lui, allait être appelé. C'est-à-dire qu'à la différence de Slimani, d'autres cadres comme Belaïli ou Feghouli, eux, effectivement, c'est des joueurs qu'on a mis pour l'instant de côté parce qu'on demande à en voir d'autres. Mahrez, c'est vraiment un cas à part, c'est normal.
Mais il s'est un peu décrédibilisé à la dernière CAN, Mahrez.
Oui, vous avez raison, c'est-à-dire. Mais il allait être appelé quand même, je veux dire. C'est lui qui est en fait dans la continuité.
C'est une tête de proue.
Ah bah c'est le capitaine de la sélection, c'est celui qui est censé incarner l'équipe d'Algérie. Mmh. C'est la star de l'équipe, mais une star, effectivement, qui, sur le terrain, n'a pas été au rendez-vous, non pas seulement à la dernière CAN qu'on avait vécue ensemble en Côte d'Ivoire, mais aussi lors du barrage Coupe du Monde. Algérie-Cameroun, le fameux barrage où c'est de la faute de l'arbitre, mais en fait, les joueurs n'avaient pas été bons pour certains, et lui le premier. Et la CAN précédente au Cameroun, où l'Algérie avait déjà commencé à montrer
des grands
signes d'essoufflement.
N'oublie pas, Nabil, qu'il n'a pas joué la finale de Ligue des Champions. Je pense que ça l'a vachement affecté.
Alors lui, il a pris un triple KO, mais il a pris un triple KO.
Une parenthèse. Hein,
Sur cette séquence-là, il prend un triple KO. Il perd la CAN au Cameroun.
Tout à fait.
Le match de barrage face au Cameroun. Et la demi-finale face au Real Madrid de Benzema. Vous vous souvenez? Où ils sont battus à la dernière minute. Enfin, Rodrigo marque deux buts. Donc lui, à ce moment-là, il est KO. Il est vraiment KO. Donc, il avait déjà demandé un off. Il n'était pas revenu en sélection au mois de juin 2022, mais il était fâché et en froid avec Belmadi à ce moment-là. Ensuite, ils se sont rabibochés. Et là, il y a eu la CAN. Il s'en est pris plein la gueule, si je puis me permettre l'expression, Annie. À juste titre, par ailleurs, parce que ses performances étaient catastrophiques sur le terrain et sa communication également mauvaise.
Il était un peu épais aussi sous son maillot.
Et également,
il
n'était pas prêt pour cette compétition. Mais tout ça, il le sait parfaitement. Mais
Nabil, il y a une chose aussi. Il ne joue plus dans un championnat compétitif. Parce que certes, il a un passé merveilleux. Ouais. Et on se souvient de lui avec les Foxes, champions d'Angleterre.
Et Manchester City, surtout.
Et après Manchester City, bien entendu. Et là, il est parti prendre l'argent. Ce n'est pas grave, c'est un choix. Mais il est parti jouer en Arabie Saoudite.
Oui, il y a eu beaucoup de changements dans sa vie. Mais vous avez certainement raison. Le niveau d'exigence n'est plus le même. Il n'arrive pas prêt à cette CAN-là. Ce n'est pas possible qu'un joueur comme ça... C'est-à-dire que Riyad Mahrez, on le connaît, sur les 7 ou 8 dernières années, c'est un des meilleurs dribbleurs de la planète.
Un joueur admirable.
Il finit la CAN, c'est-à-dire 2,5 matchs, la CAN, à 0 dribble passé. Ce qui est, pour moi, quelque chose qui était inimaginable.
Donc, il n'a même pas essayé, en fait. Ce n'est pas qu'il a raté ses rêves, c'est qu'il n'avait même pas les
cannes. Il n'avait pas les cannes à la CAN, si vous voulez. Et puis, dernier élément, avant de lâcher la balle à Shérif, sa relation avec le coach. le coach qui est parti. C'est-à-dire, est-ce qu'il a envie de redémarrer avec un nouveau coach parce qu'il a un sentiment de loyauté à l'égard de Djamel Belmadi, qu'il a traduit il y a très peu de temps, dans un timing que moi je trouve un peu douteux en termes de com, avec un tweet pour le remercier et de soutien, et qui termine par « Merci frérot ».
Merci frérot.
Shérif, est-ce qu'on passe dans un autre chapitre avec l'éviction de certains de ces joueurs, même si Petkovic dit diplomatiquement « la porte reste ouverte »
Quand on regarde la liste, oui, il y a des. Mais de toute façon, ces joueurs qu'on a
écartés. C'était nécessaire, non ?
À part Belaïli, qui a vraiment un vrai talent, là. On le met de côté.
Oui, c'est vrai qu'en plus, il n'a pas déçu à la CAN. Hein.
Oui, oui. Non. Mais moi, je pense plutôt à des Slimani, Feghouli, éventuellement Mahrez. Est-ce qu'il a encore quelque
Mboli
chose
aussi, le gardien.
Mboli, 37 ans. Donc.
Il fallait tourner une page,
Il faut tourner une page, mais je pense que les vrais enjeux, à mon avis, ils sont au-delà. Les premiers, d'abord, le conseil que je donnerais à Petkovic, si je peux me permettre de donner
des
conseils.
J'ai son numéro, Jonathan.
On va l'appeler, Nabil, après.
Avec grand plaisir,
Avant déjà de constituer son groupe des 31, évidemment qu'il a été aidé par la fédération,
c'est
évident.
Oui, c'est normal.
Je lui recommanderais, c'est de visionner tous les matchs de la CAN 2022 pour savoir où il a mis les pieds.
Je pense qu'il le sait. Il a regardé
non,
il faut regarder tous les matchs.
C'est pas juste les matchs de l'Algérie, c'est tous les matchs.
Ah oui, le contexte africain.
Le contexte africain et surtout le contexte africain nouveau, parce que 2022, on est monté d'un cran. Et là, clairement, quand on regarde l'équipe d'Algérie,
2022.
Elle n'était
en
pas...
En Côte d'Ivoire ou...
Non, celle-là, la dernière.
Ah oui, de 2024.
Ouais. J'ai dit 2022, pardon.
Non, 2024. La dernière, on s'y perd avec les dates.
Oui, c'est
CAF,
ça. Voilà. Oui.
Il y en a encore une l'année prochaine. Plus toujours.
Et il y en a encore une l'année prochaine. Donc déjà, savoir bien où il a mis les pieds, c'est-à-dire dans le contexte africain nouveau, où l'Algérie n'a pas été à la hauteur d'un point de vue athlétique, physique, et même au niveau du jeu. Donc déjà, faut bien qu'il sache où il a mis les pieds. Et deuxièmement, bon, évidemment, il y a les matchs qui arrivent là, dans les FIFA mini-séries. Mais très très vite, on va revenir au contexte africain.
Dès juin.
Ouais, voilà, on revient au contexte africain, c'est-à-dire
avec des matchs éliminatoires
et la CAN 2025.
Mais surtout, le plus important, c'est le match de juin face à la Guinée.
Et là, on retombe dans le contexte africain.
Et c'est éliminatoire Coupe du Monde. Alors, c'est en Algérie.
Oui, parce que là, pour une parenthèse, mais ce tournoi dont vous parlez de matchs amicaux, qui s'appelle FIFA Série.
Bolivie-Afrique du Sud.
Bolivie, Andorre, Afrique du Sud
alors,
et Algérie.
Ils en jouent deux. Eux, ils jouent la Bolivie le 22.
Oui.
Et le 26.
C'est quatre équipes. Ouais. Il y a un de nos auditeurs, on a adoré avec David Finzel, il a écrit sur la page est-ce que c'est un tournoi créé par ordre alphabétique?
C'est drôle. Ouais.
On a trouvé ça. Non, mais c'est un tournoi sur... Andorre, Afrique du Sud, Algérie et Bolivie.
Ouais, c'est marrant. Ouais.
C'est incongru comme réunion de.
Bah, c'est
de
la FIFA.
Donc le prochain, c'est le Brésil. Alors,
on a déjà parlé ici, c'est la FIFA qui essaye d'organiser des matchs amicaux maintenant avec des équipes de toutes les confédérations.
En tout cas, Nabil, quel est le profil de cette sélection et surtout quels sont les objectifs? Parce que pour Petkovic, il y a une Coupe du Monde, une CAN qui se déroulera l'année prochaine, mais au Maroc. Et on sait qu'au-delà du diplomatique, ces deux équipes, évidemment, ont d'énormes ambitions et sont des adversaires, les meilleurs adversaires du continent du Nord, du continent nord-africain. Et puis, il y a aussi l'ambition quand même d'être à la Coupe du Monde de 2026, alors, j'imagine, avec 9 à 10 équipes africaines.
Alors, le président de la Fédération algérienne, qui est nouveau aussi, qui s'appelle Wali Saadi, qui était le bras droit de Mohamed Raouawa lorsque l'Algérie planait un peu sur la diplomatie sportive en Afrique. Mmh. Lui, il a voulu un entraîneur très vite parce qu'il a conscience des enjeux et des rendez-vous très rapides, et notamment ce virage hyper important. L'Algérie en tête de son groupe en éliminatoire Coupe du Monde, à 3 points d'avance sur la Guinée, qui a fait une bonne CAN, la Guinée, rappelons-le, le signe national qu'il faudra prendre très au sérieux en juin.
Il se déplace en Algérie.
Donc, en fait, pour vous la faire directe, s'il négocie bien le virage là, à venir en juin, avec des résultats, parce que là, ça va être un peu Koh-Lanta.
Oui, là, c'est mis en jambes.
C'est-à-dire que là, il a sélectionné un groupe, il y a des passés, il y a des passifs, il y a des joueurs qui étaient peut-être plus proches de Belmadi, qui sont encore là, on va voir comment ils vont se comporter. Donc on va voir comment les nouvelles têtes. Est-ce que les nouveaux arrivés sont prêts pour l'Afrique? Est-ce qu'ils vont prendre les commandes? Gouiri, Ait Nouri, Aouar. Mais je pense plutôt.
Il y a
plutôt...
des joueurs du championnat algérien.
Oui, ils en ont mis quelques-uns, mais à mon avis, ils n'ont pas sélectionné les meilleurs pour l'instant.
31 joueurs.
Parce qu'il a besoin de connaître. Mais il y a quelques joueurs comme ça qui doivent maintenant prendre le pouvoir. Je vous en donner deux ou trois. Ça va vous parler très vite. Ismaël Benacer, Milan AC. Mm-hmm. Rami Bensebaini, Borussia, Dortmund, c'est à leur tour maintenant de prendre le pouvoir, entre guillemets, et donc de porter un peu cette nouvelle génération maintenant vers un nouveau cycle. Donc, le mois de juin, ça va lui donner du temps ou pas. On sait que l'environnement en Algérie, il est compliqué. Ça va être aussi une des clés de la réussite. Ça va être aussi son adaptabilité, non pas à l'Afrique, mais surtout à l'Algérie. Et bien
mais
en
les deux, les deux, les deux.
Ouais, mais l'Algérie, c'est compliqué.
Non, non, mais évidemment,
chérif,
ça va apprendre.
C'est pour ça aussi, peut-être qu'on a choisi et un étranger, après Djabel Melmadi, qui était franco, certes, mais algérien.
Il est en télétravail depuis Doha, hein, c'est toujours important à rappeler, puisqu'il n'était jamais en Algérie.
Mm-hmm. Oui, mais en tout cas, il était quand même considéré comme un Algérien, alors que là, on a pris un Suisse. Alors, la neutralité suisse, ça peut aider, peut-être.
On a pris. Ils ne voient pas un Suisse.
Ouais, ouais,
sans être péjoratif, c'est un Yougo.
Eux, ils voient un passeport suisse, mais ils ne voient pas un Suisse.
Ouais, ouais, non. Mais c'est la.
Comment c'est plus simple présenter comme ça.
Il
y
a une longue. En fait, il a été sélectionneur de la Suisse pendant 7 ans. Quand même.
Ben oui, mais il y a une longue tradition des entraîneurs de l'Est et notamment Yougoslavie, voilà.
Bien sûr.
Donc voilà. Et par contre, pour le profil
mais
de l'entraîneur.
Mais on peut être optimiste quand même pour Petkovic, selon vous?
Bah le bémol que je porterais c'est le réservoir, c'est la qualité de l'effectif général, et je vais vous donner il y a un indice qu'on a oublié. Alors on peut juger, hein, c'est Adli qui joue là, au Milan AC.
Ouais, mais enfin il est perché.
Non, mais tout ce que tu veux, on peut critiquer, on peut juger son choix.
Je ne vais pas dans les 50.
Non, mais c'est pas ça, c'est que ce joueur-là a fait le choix, ce qu'il était pressenti pour jouer en équipe d'Algérie, finalement, il a décliné, il veut jouer en équipe de France, très bien. Je pense qu'il y a quelques années, peut-être qu'il aurait fait un choix inverse. Et est-ce que c'est pas le début, l'amorce, chez pas mal de binationaux, de commencer à avoir un peu de recul par rapport à cette équipe d'Algérie qui ne brille plus comme elle a brillé avant? Donc, est-ce qu'elle a autant d'attractivité qu'elle l'avait il y a encore 2 ans? Je suis pas sûr. Il faut se poser la question. C'est juste un indice. C'est juste un indice. Parce que si à la suite, il y a d'autres joueurs binationaux qui souhaitent pas. Mais bon, le truc, c'est a priori, le choix est bon. Après, il y a les problèmes de langage, il faut connaître le championnat algérien, ceci, cela. Ben... Mais a priori, techniquement, le choix est bon. Et la grande qualité de Petkovic, il faut le rappeler, c'est que c'est un joueur qui sait faire des équipes. C'est-à-dire qu'au moment des choix, on peut a priori lui faire confiance pour sélectionner les 11, peut-être pas les 11 meilleurs, mais les 11 qui savent jouer ensemble.
Ça sera a donc deux matchs, d'abord contre la Bolivie. Alors, il ne joue pas à 4000 mètres d'altitude, c'est déjà avantage.
Non.
Et ensuite.
Il ne faudra pas manquer d'air, en tout cas. Okay.
Voilà, revue d'effectif pour les deux matchs.
Voilà, exactement.
Par contre, le deuxième match est quand même plus sympa.
L'Afrique du Sud.
L'équipe qui s'est classée troisième de la dernière CAN, donc
exactement.
C'est intéressant.
Avec Hugo Boss,
qui était passé par l'Algérie comme entraîneur en club, du côté de la JS Kabylie notamment. Donc, c'est un pays qu'il connaît.
Ils se connaissent bien. Allez, on continue et on va terminer en Espagne.
Dani Alves, el Libertad bajo fianza de 1 millón de euros. Así lo ha decidido la Audiencia de Barcelona a la espera de resolver los recursos contra la sentencia que le condenó a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca de Barcelona.
La liberté provisoire accordée ce matin à Dani Alves, l'ancienne star des Blaugrana, doit s'acquitter 1 million d'euros de caution pour recouvrer une liberté surveillée. Il doit aussi remettre ses 2 passeports espagnols et brésiliens. Dani Alves, ou la chute d'une superstar du football, car après une incroyable carrière, l'ancien latéral de la Seleção du Brésil, mais aussi du Barça, de la Juventus et du PSG, vient de passer 14 mois en prison en Catalogne pour le viol d'une jeune femme dans une boîte de nuit. Et il attend d'ailleurs un deuxième procès, parce qu'il avait interjeté appel, après avoir été condamné récemment à 4 ans et demi de prison et 5 années probatoires, avec interdiction formelle d'approcher la victime. Il a surtout été licencié par les Pumas du Mexique, avec qui il était en train de terminer sa carrière. Après un incroyable parcours, Chérif, il a 40 ans, il assurait qu'il voulait jouer jusqu'à 50 ans. Il a tout raté, là.
Ouais, malheureusement, il y a...
Condamnation pour viol.
Alors on va apporter une précision. Il a interjeté appel de sa condamnation, mais le parquet aussi a fait appel.
Mm-hmm.
Ça veut dire que là,
lui,
on est.
Lui trouve que c'est trop et le parquet trouve que c'est pas assez.
Ça se trouve, ça, la peine va être aggravée.
Exactement.
Aussi, parce que là, on est tout dans le truc, oui, on est resté bloqué à la peine de 4 ans et demi.
Ça pouvait aller jusqu'à 12 ans, je crois.
Ouais, voilà, c'est ça, ça peut remonter. Hein, donc,
il a déjà fait un an, si je dis pas de bêtises.
Voilà, après, il a fait 14 mois.
14 mois, vous avez dit. Ouais,
donc vrai. Après, bon, rapidement, bah, sa libération conditionnelle, enfin, avec caution, bah, c'est l'état de droit, c'est comme ça, c'est, on peut critiquer, mais c'est l'état de droit en Espagne, donc voilà.
C'est-à-dire que jusqu'au procès, il n'avait pas eu le droit d'être en liberté surveillée.
Ouais. On lui a retiré ses deux passeports. Là.
Ouais, voilà,
Mais justement, parce qu'on avait peur d'un délit de fuite.
Évidemment.
Et oui, évidemment.
Il
n'y
a pas de... Ouais. Y a pas de...
Parce qu'on pense à l'affaire Robinho.
Il n'y a pas d'extradition possible entre l'Espagne et le Brésil.
Non, mais il a le passeport espagnol. Ouais. Donc, il est espagnol. Ah, donc, oui, c'était ça aussi le piège pour lui.
Et la fin de carrière, c'est pas la carrière sportive, malheureusement, mais c'est l'extra-sportif.
Mais lui qui aurait pu bénéficier un peu à l'image de Ronaldinho, par exemple, qui quand il revient à Barcelone est une véritable star.
Non, mais là, on parle de joueurs et de football. Il était resté de toute façon au poumon.
Mais oui, c'est pour ça qu'il était en Espagne d'ailleurs là. Il est passé beaucoup de temps autour de Barcelone.
Et c'est le championnat mexicain. Le championnat mexicain, c'est un championnat de bon niveau. Donc, a priori,
le
sportif, au niveau du sportif, alors 50 ans, j'ai des doutes, mais 43, 44 peut-être, sans doute. Mmh. Quand on regarde un peu l'équivalent de Pépé là, au Porto, c'était jouable. Mmh. Mais il y a l'extra-sportif, et l'extra-sportif, c'est très souvent, ça arrive.
C'est arrivé.
C'est le cas de joueurs qui se croient tout permis, qui ne savent pas que par moment, on peut leur dire non. Mmh. Et parce que le viol, il est caractérisé.
C'est un crime.
Voilà,
en
non
plus.
Mais le viol est caractérisé, il a été jugé pour ça. Mm. Donc, à lui d'assumer. Mm. Il y a le sportif et il y a l'homme. Le sportif, il aurait pu, oui, en effet, jouer encore 2-3 saisons, mais il est rattrapé par les dégâts que l'homme a créés.
Affreux.
Va falloir qu'il l'assume.
Affreux.
C'est difficile maintenant de poser un regard distancié par rapport à sa carrière de footballeur, puisque c'est une tâche indélébile. On pense évidemment à la victime qui, elle, le voit ressortir en étant capable de payer un million d'euros. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a une justice qui peut protéger ceux qui ont de l'argent.
C'est ce que disent certains politiciens en Espagne à 7 heures.
Bon, ça, c'est, je
suis pas là pour, d'une justice à deux vitesses.
Je ne suis pas là pour exprimer mon opinion, mais j'émets des hypothèses. Voilà.
Bien sûr.
Et en fait, moi, j'arrive plus à... Alors, pour être honnête avec vous, Annie, je trouvais le footballeur fantastique, tout ce que vous voulez, mais j'arrive plus à le voir comme un footballeur, en fait, tout simplement. Parce que cette affaire est absolument effroyable et c'est difficile maintenant de le dissocier de ça, tout simplement. D'autres sont peut-être capables de le faire. Pour moi, je ne me serais pas exprimé si justice n'était pas passée, mais même s'il interjette un appel, elle a quand même condamné, pour, vous avez raison, une qualification extrêmement grave.
Et on pense à Robinho, par exemple. Robinho qui a été, lui aussi, vraisemblablement, les faits sont établis du côté de l'Italie, condamné alors par contumace parce qu'il n'était pas présent pour un viol en Italie. Et finalement, il s'est réfugié au Brésil. Alors récemment, le président Lula a dit qu'il fallait qu'il accomplisse sa peine en prison au Brésil. Mais pour l'instant, il n'avait pas été emprisonné, alors que ça fait des années que dure cette histoire. Alors Robinho, il n'a pas eu la carrière de Alves, quand on y pense, c'était 43 trophées. Il en avait pratiquement autant que Messi. Alors, il n'a jamais été champion du monde, mais c'était 400 matchs avec le Barça. C'était
quelque part, c'est
trois
lié.
Ligues des Champions.
Quelque part, c'est lié. On sort de la normalité de l'homme.
C'est un droit commun, c'est tout, comme tout le monde.
Non, mais comment dire, c'est aussi.
Parce qu'il était hors sol.
Oui, il était hors sol.
Il se sentait intouchable.
C'est la surpuissance, les titres. Mais c'est comme en politique.
Il y en a d'autres qui sont tombés.
Le propre des personnalités qui ont du pouvoir, c'est au bout d'un moment de perdre contact avec la réalité. Mm. Et ce soir-là, dans cette boîte de nuit, il a perdu contact avec la réalité. Ou du moins, il l'avait perdu depuis longtemps.
Oui. En tout cas, triste histoire. Et Dani Alves a rayé sans doute des tablettes.
Non, mais un jour à plus.
Oui, il sera.
Non, mais même aujourd'hui, vous allez demander un classement des meilleurs latéraux de l'histoire du football. Il aurait pu y être. Je suis sûr que spontanément, 8 personnes sur 10 ne le mettront plus, ne penseront plus à lui. Cafu, lui, sera toujours là, par exemple.
Oui. Triste histoire, donc, et pour l'instant, Dani Alves, donc, en passe de sortir de prison, mais pas du tout sorti d'affaire. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé aujourd'hui avec enthousiasme à cette émission. Et on se retrouve demain pour continuer à parler football.